Bonsoir, deux thèmes sont au centre de la tribune de la presse de ce jour. D'abord, situation sécuritaire au Nord Kivu. Didier Reynders, vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, estime que les sanctions doivent être prises à l'encontre du Rwanda pour son soutien au M23 au niveau de l'Union européenne et des Nations unies pour qu'elles aient des résultats escomptés. C'est à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État lors de sa visite en RDC. Et ensuite, nous parlerons de la résurgence de plusieurs maladies en RDC, telles qu'Ebola, le choléra, la rougeole, les monkeypox et la méningite. Trois confrères journalistes participent à cette émission. Révérend Père Jean-Pierre Bojoko, journaliste à la Radio Vatican, émettant depuis la Cité de Vatican. Révérend Père Bojoko, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Jean-Baptiste Badera, directeur de Canal Future Télévision au Sud Kivu et correspondant de l'agence France Presse dans cette province. Jean-Baptiste Badera, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les confrères.
Médard Mbouyal Mangala, journaliste à la radio-télévision nationale RTNC, également directeur de publication du journal La Concorde qui paraît à Kinshasa. Médard Mbouyal Mangala, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Bienvenue à tous dans votre émission. Rencontre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belges Didier Reynders et Joseph Kabila qui se sont entretenus sur la situation sécuritaire au Nord Kivu et ainsi que la résurgence de plusieurs maladies en RDC. Voyons comment la presse kinoise a abordé ces sujets dans cette revue de presse de Samuel Kachak.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse avec l'Observateur qui relève que la Belgique exige l'arrêt immédiat de la rébellion en RDC. Selon ce tabloïd, la Belgique dont on pointait du doigt le mutisme complet s'est exprimée face à l'agression dont est victime la RDC. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, en visite en RDC, a coupé court au ragot. Il a déclaré que la Belgique condamne la rébellion qui a lieu présentement à l'est du pays. Pour Didier Reynders, la Belgique se propose de travailler de commun accord avec la RDC ainsi que l'ensemble des pays de la région qui se sont réunis à plusieurs reprises. Ceci en faisant en sorte que la MONUSCO joue un rôle important au sein de la force internationale neutre que l'on veut mettre en place. Ce même point de vue est partagé par la Référence Plus qui, citant Didier Reynders, note que c'est autour de la MONUSCO que devrait se développer une force internationale neutre pour garantir l'étanchéité et la transparence des frontières congolaises. Abondant dans le même sens, l'Avenir annonce que les démocrates, libéraux et écologistes belges exigent la suspension de la coopération militaire au Rwanda. De leur côté, Uhuru et Forum des As rapportent qu'au terme de sa visite en RDC et de son entretien avec le président Joseph Kabila, Didier Reynders a invité le gouvernement congolais à renforcer son armée. Selon ces deux quotidien quinois, l'homme d'État belge a affirmé que la RDC a commis dans le passé l'erreur de vouloir trop souvent intégrer dans ses forces armées un certain nombre de rebelles, des mutins et d'indisciplinés. Et en intégrant ces indisciplinés, a-t-il fait savoir, on intègre l'indiscipline, note la prospérité. Dans un tout autre chapitre, la prospérité fait état de la fièvre hémorragique et titre, Ebola signalé dans la province orientale, Dr Kabonge Numbi appelle la population à la vigilance. Ce journal indique que le ministre de la Santé veut ainsi stopper la propagation du virus dans cette province, voire dans tout le pays. Déjà, le ministère de la Santé publique révèle que l'épidémie a fait en moyenne 60 victimes, dont 60 décès enregistrés, parmi lesquels 3 professionnels de santé. Le potentiel titre, le virus d'Ebola en province orientale avec 15 cas cumulés, dont 10 décès. Au sujet de cette fièvre hémorragique à virus d'Ebola, l'Ouganda a décidé l'envoi en RDC des experts pour contenir l'épidémie, conclut le palmarès.
Merci Samuel Kachak. Révérend Père Jean-Pierre Bojoko, vous êtes journaliste à la Radio Vatican, émettant depuis la Cité de Vatican. Parmi les autres sujets d'actualité, on peut citer la clôture ce vendredi de la session extraordinaire de l'Assemblée Générale du Conseil Supérieur de la Magistrature. Un commentaire sur cette revue de presse que vous venez de suivre.
Mais je pense que si on commence par la magistrature, c'est quand même important, puisque qui parle de magistrature parle de la justice. Et je crois que c'est une dimension importante. Il ne faut pas qu'il y ait seulement des assemblées de la magistrature, mais que concrètement la justice du pays puisse progresser et que les Congolais puissent se retrouver vraiment dans leur magistrature et dans leur justice.
Merci, révérend Père Jean-Pierre Bojoko. Jean-Baptiste Badera, directeur de Canal Futur Télévision, basé au sud de Kivu, et correspondant de l'agence France Presse dans cette province. Qu'est-ce qui fait l'actualité à Bukavu?
Merci Alain Rung. L'actualité ici à Bukavu est faite de la mort du révérend père Georges Defour. C'est un père xavérien qui vient de décéder en Belgique. C'est un nom très connu dans la région. Il a été plusieurs fois chercheur. Il a été aussi l'initiateur du mouvement Xaveri dans cette partie du pays. Et aussi il a été l'initiateur de plusieurs œuvres, mais dernièrement, c'est lui qui a créé le CERDAF, c'est un centre de recherche installé ici à Bukavu. C'est donc l'une des grandes actualités qui domine ici à Bukavu, mais également il y a la visite du ministre Berlison qui séjourne actuellement à Bukavu. Et hier, il a rencontré notamment le gouverneur de la province du Sud Kivu, mais surtout les femmes victimes de violences sexuelles à l'hôpital général des femmes de Kwanzi.
Merci Jean-Baptiste Badera. Médard Mbouyal Mangala, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, également directeur de publication du journal La Concorde qui paraît ici à Kinshasa. Parmi les autres sujets d'actualité, il y a également la clôture ici à Kinshasa de la conférence des ministres provinciaux de l'enseignement primaire et secondaire. Comment vous avez analysé cette actualité?
Ces rencontres sont importantes parce que finalement, ça permet de créer une sorte de cohésion, sinon créer une vision commune dans la perception des questions de l'éducation. Parce qu'avec l'émergence des projets de nouvelles provinces, même des assemblées provinciales, on se met justement dans une logique où parfois dans telle ou telle autre province, on pose des actes qui ne sont pas conformes à la vision de l'éducation, où on a tendance à aller au-delà de ce que le pouvoir prévoit. Et donc, nous considérons que un mécanisme qui permet aux gens de se rencontrer, de se concerter, sont certainement utiles parce que nous, on est finalement au-delà des provinces. Nous sommes la République démocratique du Congo et qu'au niveau de la République démocratique du Congo, qui est une seule vision de l'éducation, une seule vision sur le système éducatif.
Merci Médard Mbouyal Mangala. Abordons notre premier thème de ce soir. Fin hier, jeudi, de la visite du vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères à Lubumbashi au Katanga. Au cours de son séjour, l'homme d'État belge s'est entretenu avec le chef de l'État, Joseph Kabila. La situation qui prévaut dans l'est du pays était au menu. Le diplomate belge estime que les sanctions doivent être prises au niveau de l'Union européenne et des Nations unies contre le Rwanda pour son soutien aux rebelles du M23, sanctions qui doivent avoir des résultats escomptés. On écoute Didier Reynders au micro de Jean Gandou.
J'ai entendu l'annonce américaine de suspension de l'aide. Si je ne me trompe, elle porte sur 200 000 dollars. Je ne pense pas que ça fasse une pression particulièrement importante. Moi, je préfère travailler avec une coordination. Et donc, si des mesures doivent être décidées à un moment donné, qu'elles le soient décidées tous ensemble dans l'Union européenne. C'est ce que nous discuterons au début du mois de septembre ou aux Nations unies. Mais des actions isolées de mesures prises par un pays ou par un autre, très souvent, cela ressemble à des effets d'annonce. Pour l'instant, nous privilégions le dialogue, comme d'ailleurs les pays de la région le font. Je rappelle que encore à Kampala, les chefs d'État ont signé le même document, que ce soit le président congolais ou le président rwandais ou leurs collègues. Ils ont signé les mêmes documents avec les mêmes intentions de mise en place d'une force internationale et de participer à la pacification. Maintenant, ce que je souhaite vérifier sur le terrain et puis en contact avec mes collègues, c'est que cette pacification intervient réellement et que donc chaque pays fait des efforts pour aller dans ce sens. Je l'ai demandé au président Kabila pour ce qui concerne la réforme de l'armée, la réforme des administrations au Congo, mais je demanderai de la même façon aux autorités rwandaises dans les prochains jours.
Médard Mbouyal Mangala, Didier Reynders, en parlant des sanctions que certains États ont prises individuellement contre le Rwanda, parle d'effet d'annonce, mais comment vous analysez l'attitude de la Belgique dans cette crise qui sévit au Nord Kivu?
Bon, je considère que c'est un moment de vérité parce que justement la Belgique c'est un acteur clé dans les conflits ou qui a créé des structures ou à la limite des infrastructures qui ont permis l'émergence des conflits actuels. Or, depuis tout le temps, La Belgique a toujours regardé une sorte d'ambiguïté dans la question des Grands Lacs. Et le sujet de premier propos prononcé justement par le ministre des Affaires étrangères, il a reconnu que la faute qu'on a commise, c'est de vouloir pousser le gouvernement congolais à intégrer dans l'armée nationale des militaires, des rebelles venus de toutes sortes, sans niveau de formation. Finalement, vous allez vous retrouver au bout de compte avec une armée ethnisée à souhait. La plupart des gens qui passent des rébellions vers l'armée nationale, c'est de séduire comme bien d'autres, sans aucune formation militaire, et subitement, ils se retrouvent au sein de l'armée nationale avec des grades, avec des fonctions. Mais je comprends certainement, parce que finalement, c'est une stratégie qui avait été montée pour détruire le système de défense national congolais. C'est établi. Et c'était une manière, en créant le chaos au sein de l'armée, on permet l'émergence du leadership rwandais. Ça, c'est établi. Vous avez vu toutes les actions commises par la FDL avec James Kabarebe lorsqu'il prend tous les militaires, les ex-femmes, il les amène dans le Bas-Congo. C'était une manière de détruire. On n'a pas détruit que l'armée, on a aussi détruit les archives nationales. Que le premier ministre, que le ministre des Affaires étrangères baisse se ressaisisse, effectivement, il faut que l'armée, il faut que la communauté internationale, dans son entièreté, puisse se ressaisir, parce que depuis 1996, ça a été le discours d'ambiguïté. On n'a jamais condamné clairement l'agression d'autres victimes, soit de l'Ukraine, soit de la République démocratique du Congo. Avec le nouveau discours, on doit tirer toutes les conséquences. Donc, ne pas faire comme la Maison Blanche, se contenter de 200 000 dollars qu'on donne dans la formation des militaires rwandais. Dans l'entretemps, la République démocratique du Congo vit sous l'embargo dans la CADAR. Et donc, il faut que la justice règne. On ne peut pas imposer l'embargo à la République démocratique du Congo, tandis que le Rwanda et l'Ouganda continuent à entretenir des armes, à acheter des armes où ils peuvent, mais tout en fragilisant la République démocratique du Congo. Quelque part, on dit, il y a l'intention de nuire.
Mais Mbuyal Mangal Médar, il faudrait préciser que l'embargo sur les armes en RDC porte plutôt contre les groupes armés en RDC, non pas contre l'armée nationale. Vous avez parlé d'ambiguïté dans l'attitude de la Belgique. Sur terrain, on a plutôt l'impression que c'est la France qui a semblé porter à bout de bras le dossier congolais. Peut-on parler d'un réveil tardif de la Belgique?
Oui, je l'ai dit, c'est un réveil tardif, parce que finalement, si je considérais que la Belgique, c'est un acteur clé dans les conflits congolais, parce que justement, c'est pas à travers la gestion de la Belgique qu'on a vu des populations rwandaises être versées sous les territoires congolais dans ce qu'on a appelé mission d'immigration de Banyarwanda, depuis les années 30, et ces missions ont continué sous plusieurs facettes. Et donc, c'est à travers la Belgique que la population congolaise a été contrainte de pouvoir vivre ou de pouvoir subir ces immigrés et qui est aussi entretenu des discours flous, des discours ambigus. Et donc, que la Belgique se ressaisisse. Alors, on doit tirer toutes les conséquences. On sanctionne le Rwanda et qu'on mette aussi tous les mécanismes en œuvre, qu'on relise tous les rapports des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous que depuis 2000, les Nations Unies ont produit plusieurs rapports et on a démontré que les guerres, l'instabilité en République démocratique avaient comme origine l'accès aux ressources naturelles. Et donc, même si on peut couper les quelques sanctions qu'on a données, mais l'exploitation, du moins, la guerre est en train de se financer elle-même, parce qu'en ce moment-ci, les Rwandais ont accès aux ressources stratégiques logées sur le territoire national. On est en train de creuser. Mais on ne se limite pas à creuser, on est en train d'y envoyer, on est en train d'implanter des populations rwandaises sur le territoire congolais.
Merci. Révérend Père Jean-Pierre Bodjoko, comment vous analysez l'attitude de la Belgique? Médard Mbuyal Mangala a parlé d'une certaine ambiguïté, d'un réveil tardif.
Mais je pense que le langage même du ministre belge des Affaires étrangères, c'est le langage d'un diplomate. Et des fois, dans la vie, il faut se méfier du langage diplomatique qui se situe au niveau des paroles. Je crois que la République démocratique du Congo à présent a besoin d'action, mais il a soulevé des points importants en parlant par exemple de ce que représentait la sanction américaine de priver le Rwanda de 200 000 dollars d'aide pour la formation de militaires. C'est insignifiant pour un pays comme le Rwanda. Et quand Medal Mbuyala parle par exemple de la guerre qui se finançait elle-même, et il a tout à fait raison. Pourquoi? Puisqu'il faut voir dans les sanctions contre le Rwanda, qu'est-ce que ça représente pour ce pays et comparativement à ce que gagne le Rwanda en essayant de soutenir la rébellion dans l'est de la République démocratique du Congo. Ça signifie qu'il y a un intérêt économique peut-être plus grand que ce que perdrait le Rwanda dans les sanctions imposées par la communauté internationale. C'est ce qu'il faut voir. À la fin des comptes, je pense que au lieu de tenir compte seulement aussi des discours diplomatiques, des soutiens du Rwanda, non, de la Belgique ou de la France, je crois que la première responsabilité dans la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, ça c'est ma conviction et je crois que j'assume ça, la responsabilité d'abord de la situation, ça revient aux Congolais eux-mêmes et quand je parle des Congolais, je parle du gouvernement congolais. Ça signifie les sanctions, ça peut être élastique dans ce sens qu'on tient des réunions et entre-temps la situation s'empire à l'est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, la population est en train de souffrir et de mourir et je crois que les sanctions c'est bon, mais ça mène à quoi?
Référent Père Jean-Pierre Bodjoko, la responsabilité d'abord congolaise, vous venez de le dire, mais si on revenait sur le plan international, la voix de la Belgique compte-t-elle suffisamment dans le concert de nations pour plaider la cause de la RDC?
Je n'ai rien contre la Belgique. C'est un pays que j'ai visité plusieurs fois et la Belgique a la chance, peut-être selon moi, d'abriter, disons, les institutions de l'Union européenne. Ça signifie qu'elle a une voix à donner et à faire entendre, d'autant plus que c'est aussi le pays qui a colonisé la République démocratique du Congo. Dans ce sens, la Belgique est consultée puisqu'elle est supposée bien connaître la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est suffisant? Je me pose la question.
Jean-Baptiste Badera, quel est votre point de vue par rapport à la question que je viens de poser au père révérend père Jean-Pierre Bodjoko sur le poids même du plaidoyer belge en faveur de la RDC sur l'échiquier international?
Oui, merci beaucoup Alain Rung. Je pense que chaque poids, chacun qui amène un kilo pour résoudre la question qu'il y a dans l'est de la République démocratique du Congo est très important. Et l'apport de la Belgique, je pense qu'on ne peut pas le minimiser. D'autant plus que la Belgique, en disant que, à travers son ministre, qu'il y a d'abord un problème au niveau de l'armée, parce qu'il parle de la refondation, ou mieux, l'établissement de l'état des droits. Je l'ai suivi en tout cas à Bukavu hier, ce vendredi, ce jeudi, il était ici au Bukavu. Il parle également de la réforme de l'armée. Je vois que là, c'est un problème. Mais aussi, il insiste sur le fait que s'il y a des aspects externes qui contribuent à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, il aura l'occasion, c'était notamment avec le Rwanda, parce qu'il pense que tout peut passer par le dialogue. Et c'est là la voie que tout le monde a emprunté, je crois, avec ce qu'il y a comme réunion à Kampala et à Addis Abeba. C'est même ça la voie qu'on a emprunté. Mais il faut retenir que c'est un politique, c'est un homme politique. Et donc là, il adopte des tendances politiques et diplomatiques par rapport à l'espace et par rapport au temps. Et donc, pour conclure par rapport à la question Alain Roux, je pense que c'est très important qu'il dit, parce que chacun qui peut amener une contribution pour mettre fin à la situation qui sévit actuellement dans les Afriques démocratiques du Congo, et le bienvenu est bien accueilli par rapport à la situation. Et que ce soit la Belgique, que ce soit la France, que ce soit l'Angola, le Congo-Brazzaville, n'importe quel pays pourvu que la paix revienne dans cette partie du pays, parce que, en Irlande, imaginez-vous, hein, ce sont des vies en danger, ce sont des familles qui souffrent, hein, surtout nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, c'est vraiment un problème. Et je crois que on ne peut pas minimiser le poids de la Belgique par rapport à la question. C'est lui qui peut amener un plus par rapport à la situation. Je pense qu'il faut bien l'accueillir.
Jean-Baptiste Badera, quand Didier Reynders dit qu'il faut absolument envisager envisager de nouvelles solutions si l'on veut avoir une armée digne en RDC. C'est entre autres, dit-il, éviter d'intégrer des indisciplinés au sein des forces armées. Le gouvernement congolais a-t-il vraiment le choix dans ce secteur quand on se réfère à l'expérience, à tout ce qui s'est passé dans cette matière?
Oui, je crois que le gouvernement congolais n'a pas de choix. Hein. Il est obligé parce que c'est un État. Un État, je pense que s'il veut s'imposer, il a tous les moyens de sa politique pour s'assumer par rapport à la question. Et je ne vois pas comment le Congo peut se mettre en évidence par rapport à cette question. Et je ne vois pas comment on peut espérer construire une bonne armée quand on ne tient pas compte de tous ces paramètres, de toutes ces normes que tout le monde respecte sur le plan international. Et je crois qu'en tout cas, à ce niveau-là, je viens d'apprendre, j'ai suivi dans les médias qu'il y a de nouveaux recrutements qui doivent se faire au niveau des forces armées de la République du Congo. Je me demande si c'est vraiment important, alors qu'on sait qu'on a vraiment autant d'hommes, de troupes, on a autant d'officiers, et c'est incroyable que tout le temps on puisse penser, comme vous avez posé la question précédente, qu'il faudra que les solutions congolaises proviennent toujours de l'étranger. Il y a moyen, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup de richesses. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, il y a des pays comme le Nigeria, le Ghana, et même l'Angola, qui ont aussi des richesses. Mais pourquoi on n'attaque pas ces pays-là? C'est parce que nous avons une armée faible, c'est parce que nous avons affaibli l'État. Et donc, comme l'a dit le ministre Berge, il faut le rétablissement de l'État des droits. Et comme l'a dit dernièrement, je l'ai suivi dans ses différentes interventions, Vital Kamerhe, il faut la réformation de l'État congolais.
Merci Jean-Baptiste Badera. Médard Mbouyal Mangala, Jean-Baptiste Badera vient également de le dire. Vous le savez, le recrutement des jeunes au Nord Kivu a commencé au niveau de l'armée nationale. Mais Jean-Baptiste Badera s'est posé des questions importantes. Est-ce opportun de recruter maintenant ou faudrait-il réorganiser ce qui existe déjà?
Non, il faut créer la connexion avec les actions pourvu que ça soit cohérent. Mais il faut tout de même regretter que pour une armée qui bénéficie des appuis depuis la sortie du dialogue intercongolais, les résultats se continuent à être faibles. Faut-il croire que seulement le fait d'infiltration qu'on a infiltré au sein de l'armée, les membres du CNDP aujourd'hui transformés en M23, c'est des éléments, heureusement que Didier Reynders a reconnu que cette opération qui consiste à injecter dans l'armée des gens venus de toutes les sources, de toutes les rébellions, ça, je l'ai dit dès le début que c'était une stratégie d'anéantissement de l'armée nationale congolaise pour permettre au Rwanda d'exister. Et c'est une mauvaise stratégie, c'est des mauvais calculs de la part des Occidentaux, particulièrement des Américains qui ont tablé depuis plusieurs années à la balkanisation de la République démocratique du Congo et la mettre sous la coupe des autres États. Voyez-vous, on a vu par exemple dans les années 90, le président américain Bill Clinton faire le déplacement vers Kampala pour aller saluer une démocratie sans parti politique. C'est nouveau, que ça soit dans l'issue du bureau de la Maison Blanche, on est allé en réalité saluer une des dictatures militarisées. Il en est de même. Maintenant, vous verrez qu'il y a de contradictions. Récemment, le président Barack Obama est passé à Accra au Ghana pour saluer une démocratie avec les partis politiques, avec les possibilités d'alternance. Alors, je peux même moi-même me poser la question. En fait, la Maison Blanche nous propose quel type de modèle? Le meilleur modèle en Afrique, est-ce ce qui se passe à Kigali, ou ce qui se fait à Kampala, ou ce qui est en train de se faire à Accra.
Merci.
Et de toutes les façons, l'armée congolaise devra se mobiliser parce qu'on est devant un défi à accomplir à tout prix. Parce que de toutes les façons, au-delà des gens qui sont dans l'armée, s'il y a une forte mobilisation, on peut même imaginer des perspectives qui feraient que chaque province puisse envoyer au Nord Kivu 100 000 personnes, les gens plus forts, non pas pour se battre,
merci,
pour marcher sur le retour, et on verra ce que le CNDP ou le M23 va faire de plus d'un million de personnes qu'on peut envoyer à retour. Parce que finalement, en réalité, on est en train de vouloir se moquer du prestige de tout un pays.
Merci.
Parce qu'il y a le vrai leadership, la RDC l'a perdu, et il faut créer les conditions à remonter. Et le Rwanda ou le l'Ouganda ne sont pas prêts à accepter l'émergence d'un nouveau leadership en République démocratique du Congo.
La parole au révérend Père Jean-Pierre Bojoko. Révérend Père, quel sens doit-on donner à ce recrutement qui a commencé dans l'armée nationale au Nord Kivu?
Mais moi, je pense que si le recrutement commence dans l'état actuel des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'armée. Et je crois que Jean-Baptiste Badera l'a bien dit, que notre armée est faible. Et quand l'armée est faible et n'arrive pas à bout de rébellions à répétition, et en ce moment-là, le pays ou le gouvernement est obligé de négocier. Et quand on négocie, les autres s'imposent. C'est comme ça qu'on est obligé chaque fois de prendre dans l'armée même les gens indisciplinés. Et après, on subit les conséquences. Je pense que le problème se situe d'abord au niveau même des volontés, de la volonté de réformer l'armée. Il faut vraiment que le gouvernement ait la vraie volonté de réformer l'armée. Mais réformer l'armée, ce n'est pas quelque chose qui se décide comme tas de but au blanc. Il faut de l'argent pour le faire, et il faut des structures. Bon, on a essayé de faire quelque chose, je crois, qu'on forme déjà des gens vers la province orientale, les Américains, j'ai appris, et dans d'autres coins. Mais qu'est-ce que ça donne depuis tout ce temps, puisque nous sommes quand même en guerre depuis plus d'une dizaine d'années? On devait déjà avoir une armée forte. Et si on prend un pays comme l'Angola, qui a une armée forte maintenant, c'est après l'expérience de tant d'années de guerre. Est-ce que là, c'est la même chose comme chez nous? Je ne sais pas. Mais ça signifie que pour moi, je trouve que notre gouvernement, la République démocratique du Congo, devait avoir la bonne volonté de réformer l'armée et de mettre les moyens conséquents pour cela.
Mbuyal Mangala a tout à l'heure évoqué, a martelé même les contradictions dans le chef de certaines grandes, dans l'attitude de certaines grandes puissances, notamment les États-Unis, qui saluent la démocratie au Ghana, en même temps au Rwanda. Juste un mot, révérend Père Bojoko.
Moi, je vis en dehors du pays, et quand je vois les lamentations parfois des Congolais par rapport à la communauté internationale, parfois je ris, puisque cette communauté internationale, il ne faut pas croire qu'ils sont là en train de veiller pour juste voir les intérêts de la République démocratique du Congo. Ils ont beaucoup d'autres intérêts ailleurs. Là où les Américains, les Européens veulent intervenir pour sauver leurs intérêts, ils les font, et on les sent avec des moyens plus conséquents. Et chez nous, ce sont des promesses et des sanctions à prononcer, et je crois que là, nous nous trompons beaucoup si nous comptons seulement sur la communauté internationale. Ça, je le dis d'une manière sincère, et c'est mon point de vue que j'assume.
Jean-Baptiste Badera, avec vous, nous allons clôturer le premier thème de ce soir. Vous avez évoqué le recrutement des jeunes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Apparemment, vous êtes dubitatif.
En tout cas, à ce niveau-là, il faut vous dire que je suis très pessimiste par rapport à ce projet, d'autant plus que à l'époque, quand on était encore au collège, on se rappelle que c'était un engouement pour avoir une place au niveau de l'EFO Kananga, et là, les gens avaient un engouement par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce que va envier aujourd'hui un enfant qui est tiré de la 6e année secondaire pour aller rejoindre les forces armées démocratiques du Congo, d'autant plus que il voit les conditions difficiles dans lesquelles vivent nos militaires. Quand vous voyez comment les militaires en relève se déplacent dans cette partie du pays, je pense, et c'est vraiment très incroyable, hein, vous voyez armes, bagages avec femmes et enfants, et les conditions dans lesquelles les militaires, nos militaires dorment dans une zone opérationnelle, c'est très lamentable. Je vois mal comment un jeune gens qui veulent finir l'université, le corps secondaire peut encore vouloir aujourd'hui intégrer l'armée. Je pense que l'essentiel ici, ce n'est pas de dire qu'il faut que le Rwanda cesse. Je pense que l'essentiel, il faut reconnaître que nous avons des problèmes très sérieux au niveau interne. On a vu des brigades formées par les Belges, des brigades qui ont fait vraiment preuve dans l'Ituri, même au niveau de l'Ouélé, même dans le Grand Nord. Mais quelles sont ces brigades aujourd'hui? Ils sont réduites à leur plus simple expression. Je pense que l'essence d'encadrer les militaires qui sont là, au lieu de continuer à penser qu'il faut recruter, ça va coûter combien de temps, et pendant ce temps, comment va évoluer les différentes rébellions, parce qu'il n'y a pas que l'M23 au niveau local. Il y a des Congolais qui ont proposé des solutions pour mettre fin à la situation malheureuse que nous connaissons dans l'est du pays. Malheureusement, on ne sait pas les exploiter. Il y en a qui ont donné des situations de pistes de solutions par rapport à ça. Mais pourquoi on ne veut pas utiliser toute l'intelligence qu'il y a, ou soit il y a une mauvaise volonté. En tout cas, c'est très, très malheureux. Je pense qu'il faut qu'on puisse savoir que pour résoudre le problème que nous connaissons aujourd'hui, il faut l'union nationale, il faut un dialogue national d'abord, pour voir comment on peut aborder la question d'une façon extérieure.
Merci Jean-Baptiste Badera. Deuxième thème de ce soir, l'épidémie du virus Ebola, déclarée en République démocratique du Congo, selon le ministre de la Santé publique qui a livré cette information vendredi 17 août dernier à la presse. 12 cas, dont 7 décès, des personnes souffrant de la fièvre hémorragique d'Ebola ont été identifiés en province orientale, puisqu'il n'y a pas de médicaments ni de vaccins à ce jour pour faire face à ce fléau. Félix Kabange Numbi invite la population congolaise à la stricte observation de toutes les mesures de prévention prises à cet effet. On écoute Dr. Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé publique, au micro de Michel Kifindangoy.
La RDC est atteinte par une épidémie du virus Ebola. Nous venons de prendre des mesures dans le cadre des mécanismes de gestion de l'épidémie. La presse joue un rôle important dans ce travail, car il n'y a pas de médicaments aujourd'hui face à ce fléau. En vue de ne pas attraper la maladie, il est demandé d'éviter de toucher tout animal trouvé mort en forêt ou de consommer sa viande. Éviter de toucher sans protection les vomissures, le sang, les urines d'un malade ayant succombé ou qui souffre d'une fièvre hémorragique virale. Pendant toute cette période, il est recommandé à la population de renforcer des mesures d'hygiène individuelles et collectives. Plutôt, nous mettrons tous les moyens en œuvre pour pouvoir maîtriser cette affection. Plutôt, nous pourrons arrêter sa propagation.
Intervenant dans notre émission Dialogue entre Congolais de mardi dernier, le ministre de la Santé publique a précisé que le bilan actualisé des victimes du virus Ebola était de 16 malades, dont 10 décès. En même temps, dans plusieurs zones de santé à travers le pays, l'on déplore la résurgence de plusieurs maladies, dont le choléra, la méningite, la rougeole et le monkeypox. Révérend Père Jean-Pierre Bojoko, je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio Vatican, émettant depuis la cité de Vatican, comment vous expliquez la résurgence de toutes ces maladies?
Comment ces maladies reviennent toujours aussi dans notre pays? Les cas de virus d'Ebola, ce n'est pas la première fois, ça date déjà du quoi des années 70, quand on a parlé de cette maladie, surtout dans la partie de la province ou de la région de l'Équateur. Et à nouveau, ça continue, et la question c'est de dire, mais comment on ne parvient pas à éradiquer définitivement cette maladie? Et quand la maladie arrive, et c'est maintenant qu'on cherche des solutions. Ça c'est quand même un problème, puisqu'on ne sait pas prévenir, et l'adage populaire dit que mieux vaut prévenir que guérir. Et ça arrive et ça s'ajoute à d'autres maladies qui sont encore là, parfois qu'on ignore ou qu'on essaye d'ignorer, comme la malaria, comme encore d'autres cas de maladies tropicales. Le problème, c'est de voir maintenant des propositions que le ministre donne, sont des bonnes propositions, mais les conditionnements même sociaux n'aident pas les gens. Quand les gens ont faim, quand ils trouvent un animal qui tombe, et c'était un cadeau pour eux, et ils mangent. C'est ça un peu le problème. Donc ça, il faut chercher aussi dans ces mesures ou dans des précautions à prendre, de trouver des solutions plutôt pour la population. Si la population mange bien, il ne peut pas trouver un animal qui sur la route et manger. Et ça, c'est un problème qui se pose. Quand on parle des problèmes d'hygiène, moi, je prends l'exemple de la ville de Kinshasa. Si Ebola, ce virus arrive ici, il y aura beaucoup de morts. D'autant plus qu'il y a des problèmes sérieux, par exemple, d'hygiène qui ne dépend pas de la population, mais des conditionnements sociaux. Ça signifie quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène. Donc, c'est des problèmes sérieux d'ordre général, même si on déplore des cas de mort déjà avec le virus d'Ebola.
Donc, en d'autres termes, révérend Père Jean-Pierre Bojoko, les responsabilités sont partagées entre l'État et les citoyens.
Très partagées, puisque je crois que l'État est là pour veiller sur la population, pas seulement du point de vue sécurité, mais du point de vue aussi santé. La santé de la population est très importante et on doit y veiller. Et l'État devrait veiller à ça. en nourrissant bien la population, en veillant à l'hygiène de la population, en donnant de l'eau à la population, puisque quand les gens n'ont pas de moyens pour se laver les mains, comment est-ce que vous, disons, de l'eau pour se laver les mains, comment est-ce qu'ils vont le faire? Alors, ça aide beaucoup à la propagation des maladies. Et quand les gens n'ont rien à manger, quand ils rencontrent un animal sur la route ou dans la forêt, c'est un cadeau pour eux, ils doivent nécessairement manger. Et puis même, ils ont parlé, je crois le ministre a parlé du travail de la communication ou des journalistes.
De sensibilisation.
De sensibilisation par les journalistes. Mais à l'intérieur du pays, est-ce que je ne suis pas sûr, si vous me le confirmez, est-ce que les gens ont la possibilité de suivre la télévision pour suivre le ministre qui donne ses conseils? Est-ce que la radio est captée, la radio nationale, et peut-être...
Ce n'est pas toujours évident.
Voilà, donc c'est autant de questions pour dire que la responsabilité est vraiment très partagée et les conséquences assumées par tous.
Jean-Baptiste Badera, vous êtes directeur de Canal Futur Télévision, émettant au Sud Kivu et correspondant de l'agence France Presse dans cette province. Concernant le virus Ebola, certains observateurs pensent que les acquis des expériences précédentes de ce virus apparemment n'ont pas été capitalisés.
Justement, c'est ça le grand problème à l'Irlande. Je pense que on constate une sorte d'ambiance défaitiste actuellement dans le pays et notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, non seulement sur le plan militaire, mais voilà, je dis même sur le plan sanitaire. Dans la revue de presse, j'ai suivi que l'Ouganda envoie des experts au Congo pour essayer d'étudier la question en rapport avec cette maladie qui se vit aujourd'hui à Rutshuru notamment. Mais je me demande où sont passés nos centres de recherche en République démocratique du Congo. S'il faut que l'Ouganda, qu'on accuse quelque part, présumé accusé d'être complice dans ce qui se passe actuellement dans l'Est, doit encore nous envoyer des experts, doit encore nous donner $1 million pour mettre ça en sorte que c'est vie dans l'Est de la RDC. Je pense qu'il y a quelque part une sorte de maquillage, une sorte, comme je l'ai dit tantôt, une ambiance pratiquement défaitiste. Et avec ce qui se passe actuellement, je pense qu'il vient de confier l'avenir au hasard. Et comment, comme l'a dit le père révérend Pierre Jean-Pierre Bojoko, comment une population qui vit dans des conditions très très difficiles peut avoir la possibilité de se protéger par rapport à la situation, par rapport à ces virus? Parce que ces virus, qui est né au Congo d'ailleurs, aujourd'hui il est signalé en Ouganda. Quelques temps après, il est signalé en République démocratique du Congo. C'est comme si au Congo, il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de médecins qui peuvent étudier comment mettre fin à cette situation-là. Mais également par rapport à nos populations qui vivent dans l'intérieur des territoires des provinces, comment elles vont avoir accès aux médias pour justement se protéger par rapport à cette situation. Je pense que le problème, c'est une question de surveillance, c'est une question de prévention. Le virus Ebola, c'est un virus très dangereux, parce qu'il n'y a pas de médicaments, mais il faut une prévention. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il y a ceux qui ont fait la santé publique, il y a ceux qui ont fait des études par rapport à ça. Mais comment ils sont utilisés? Comment l'intelligence congolaise est mise à profit pour mettre fin à cette situation? C'est tout ça la question. Je pense que, franchement, à l'Irlande, il y a un grand problème au niveau du pays. Et franchement, je partage l'avis de ceux qui pensent qu'il faut franchement la refondation de l'État congolais.
Médard Mbuyal Mangala, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, également directeur de publication du journal La Concorde qui paraît ici à Kinshasa. Médard Mbuyal Mangala, nous avons diffusé ici sur Radio Okapi un reportage de la ville de Mweneditu, qui est une grande ville, mais dans cette ville, 8 parcelles sur 10 n'ont pas de toilettes ni de douches.
Voici tout le paradoxe que connaît la République démocratique du Congo, appelé un espace ville, et Mweneditu a acquis le statut de ville, ça fait pratiquement 10 ans, mais fût-ce qu'en termes d'infrastructures minimales, que ces infrastructures se manquaient, ça fait un sérieux problème. Et je vous rejoins de ma voix à celle de Jean-Baptiste Badera, même du père Jean-Pierre Bojoko, pour dire: quelle est la part du capital humain en République démocratique du Congo? Quelle est la place que nous réservons à l'homme? C'est vrai qu'on est formé dans les universités, qu'on crée des centres de recherche. Aujourd'hui, les centres de recherche en République démocratique du Congo sont des mouroirs. Ceux qui ont accepté de travailler dans les universités, ont-ils des considérations, ont-ils la proptitude à accompagner le gouvernement à travers les recherches, puisque nous sommes dans le secteur de santé, dans le secteur de sensibilisation? La stratégie des zones de santé, construites par le gouvernement. Est-ce que les zones de santé sont réellement prises en considération dans la recherche des réponses? Non, généralement, vous parcourez la plupart de nos hôpitaux, vous trouvez des bâtiments vides, des bâtiments qui ont vieilli, des médecins qui ont accepté de travailler dans les villages, soit ils sont de ces villages, soit ils sont les plus courageux. Il y a toujours des paradoxes tels qu'on mobilise les gens, on veut engager les médecins, mais on ne les met pas dans les conditions à être performants. On peut mobiliser les professeurs d'université à travers dans les universités, mais en réalité, les professeurs d'université devront courir pendant 3 à 4 ans pour avoir accès à une voiture qu'ils vont payer par eux-mêmes. Et donc, c'est un peu ça, là. On veut une chose et c'est son contraire. On veut avoir des villes. Oui, c'est bien, Monédic a droit à ça, mais l'aboutissement, l'accompagnement des villes ne suit toujours pas. Alors, on reste dans des villes qui sont devenues des villages ou des villages transformés en villes. C'est comme si tout était la face A et la face B.
Alors, il faut déjà conclure, Médard Mbuyal Mangala. Nous avons abordé deux sujets ce soir, la visite de Didier Reynders, ici, qui séjourne encore ici en RDC, ainsi que la résurgence de plusieurs maladies. Juste un mot en guise de conclusion.
Oui, pour revenir à la question sécuritaire, donc, il y a un double défi à mener, un défi au niveau interne, et ce défi au niveau interne doit être mobilisé par le gouvernement central à travers tous les animateurs, mettre de l'argent qu'il faut, mettre des ressources qu'il faut pour mettre fin à la guerre, donner un sens à l'État. Parce qu'il faut que les Congolais juste se reconnaissent qu'ils vivent dans un État. Parce qu'on est pratiquement dans un État inexistant, ce qui nous pose problème, parce que la sécurité, la gestion de la sécurité, c'est vrai, ça, c'est d'abord une question de l'État. Donc il faut une armée capable de garantir la sécurité, la souveraineté de la République. Il faut des forces de police, il faut les forces de renseignement. Surtout de ce côté-là,
merci.
Il semble qu'il y a du méli-mélo. Mais pour revenir à l'autre question d'Ebola, on est obligé de nous interroger sur la foi qu'on a dans le système de santé. Parce que regardez dans le budget que l'État fait voter au Parlement chaque année. Quel est le pourcentage qui est accordé au secteur de la santé? Généralement, autour de moins de 10%, ou si on arrive à 12%, on arrive même à 20%, mais à l'échéance, le budget là n'est pas forcément libéré au bénéfice des hôpitaux, au bénéfice des centres de santé,
merci.
Au bénéfice des centres de recherche.
Merci Médard Mbuyal Mangala. Révérend Père Jean-Pierre Bodjoko, votre conclusion.
Pour le premier point, disons pour la situation de l'Est du pays, moi je pense que la première responsabilité, comme je le dis, c'est le gouvernement congolais. Il faut que le gouvernement décide vraiment et avec la ferme volonté de réformer l'armée. Il faut qu'on ait une armée forte, une armée dissuasive. Quand une rébellion veut se mettre en place, qu'elle pense deux fois avant de se mettre en rébellion. Ça c'est le premier point. Pour la seconde partie de notre émission consacrée au problème de santé, je pense que la République démocratique du Congo devait être spécialiste pour lutter contre le virus Ebola, d'autant plus que cette maladie, comme on l'a démontré, tire son origine dans ce pays. Ça signifie qu'on devait déjà y penser. Quand il y a une résurgence maintenant, on devait automatiquement faire sortir les vaccins préparés pour ça. Et c'est très important, au lieu chaque fois, comme on voit dans les aéroports et dans le beach qu'on veut traverser, qu'on essaie plutôt de vacciner les cartes au lieu de vacciner les gens. Je crois que la République démocratique du Congo devait être spécialiste pour l'éradication du virus Ebola.
Merci, révérend Père Jean-Pierre Bodjoko. Jean-Baptiste Badera, à moi en guise de conclusion.
Merci Alain Rung, merci à tous les confrères avec qui on a débattu ce soir. Je crois que l'essentiel ici, c'est que la paix revienne dans cette partie du pays et dans toute la République démocratique du Congo. Mais l'essentiel, c'est que les gens, au mieux, on ne doit pas tout le temps accuser les pays voisins, les Rwandais notamment, l'Ouganda ou le Burundi ou encore un autre pays quelconque, que c'est là l'origine des mots qui rongent actuellement la RDC. Il y a également un problème interne. La refondation de l'État congolais, le ministre Béz l'a dit, il faut la réforme de l'armée, il faut l'instauration d'un état de droit, parce qu'il n'y a pas que des aspects externes, il y a également un aspect interne. Il faut encadrer nos militaires, il faut encadrer nos policiers par rapport à la première question.
Merci.
Et il faut utiliser les intelligences qui ont réfléchi par rapport à ça, ne pas les oublier, Patrice Emery Lumumba.
Merci Jean-Baptiste Badera. C'est fini pour la tribune de la presse de ce soir. Samuel Kachak était à la réalisation, à la technique Jean-Claude Nsiala, sous la supervision de Julien Nyamoini. Présentation et coordination, Alain Rung-Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.